Mémorable de Socrate, livre 3, chapitre 4. Respect de Socrate pour les lois de son pays. La justice consiste dans l'obéissance à la loi civile et à la loi naturelle. Au sujet de la justice, loin de cacher son opinion, il la manifestait par des actes. Se montrant envers tous, dans son particulier, plein d'équité et de bienveillance, et comme citoyen, obéissant aux magistrats dans tout ce que la loi commande, soit à la ville, soit dans les armées, où il se faisait remarquer par sa soumission à la discipline. Président en qualité d'épistate les assemblées du peuple, il ne lui permit pas de voter contre les lois, mais d'accord avec elles, il résista à la fougue populaire qu'aucun autre excepté lui n'aurait osé braver. Lorsque les 30 lui donnèrent des ordres conformes aux contraires aux lois, il ne leur obéit pas. Ils défendirent de s'entretenir avec les jeunes gens et lui enjoignirent en même temps qu'à d'autres citoyens d'amener un homme qu'il voulait faire périr. Seul, il refusa d'obéir parce que ses ordres étaient illégaux. Appelé devant les tribunaux par Mélétus, loin de suivre la coutume des accusés qui prennent la parole pour gagner la faveur des juges, qui flattent et prient malgré la défense des lois et se font souvent absoudre par de tels moyens, il ne voulut pas blesser les lois en agissant ainsi dans les tribunaux. Et lorsqu'il les eût été facile de se faire renvoyer par les juges, en faisant le moindre effort, il aima mieux mourir en respectant la loi que vivre en cessant de l'observer. Il tint plus d'une fois ce langage à différentes personnes. Et je me rappelle la conversation qu'il eut sur la justice avec Hippias d'Élée. Hippias, qui, de retour à Athènes après une longue absence, rencontra Socrate, qui s'entretenait avec quelques disciples sur l'étrangeté de ce fait que si l'on veut faire de quelqu'un un cordonnier, un maçon, un forgeron, un écuyer, on n'hésite point à l'envoyer auprès d'un maître capable de l'instruire. On dit même qu'on trouve partout des hommes qui ont juste ce qu'il faut pour se charger de dresser un cheval ou un bœuf. Mais si quelqu'un veut apprendre la justice ou la faire apprendre à son fils ou à son esclave, il ne sait où aller pour trouver son affaire. Hippias, qui l'avait écouté, lui dit en se raillant : « Quoi, Socrate, tu répètes ici ce que je t'ai entendu dire il y a déjà longtemps. » Alors Socrate : « Oui, et ce qui est le plus étrange, Hippias, c'est que, non content de répéter les mêmes paroles, je les répète sur les mêmes sujets. Tandis que toi, peut-être, vu ta grande science, tu ne dis pas toujours les mêmes paroles sur les mêmes choses. » Oh, sans doute, je tâche toujours de dire du nouveau. Est-ce que si l'on t'interroge sur ce que tu sais, par exemple sur les lettres, et qu'on te demande combien il y en a dans le nom de Socrate et quelles elles sont, tu cherches à répondre aujourd'hui autrement qu'autrefois? Si l'on te demande à propos d'arithmétique si 2 × 5 font 10, ne réponds-tu pas aujourd'hui ce que tu as répondu naguère? Ben, sur ces questions, Socrate, je fais comme toi, je réponds toujours de même. Mais sur la justice, je crois pouvoir dire à présent des choses auxquelles ni toi ni personne ne saurait rien objecter. Par Junon, tu parles là d'une grande découverte. Ainsi les juges cesseront de diviser leur suffrage, les citoyens de contester au sujet de leurs droits, de s'intenter des procès, de soulever les séditions. Les nations même n'auront plus de querelles entre sujets de leurs droits et ne se feront plus la guerre. Je ne vois pas trop comment je pourrais te quitter avant que tu m'aies expliqué cette admirable invention. Oui, mais par Jupiter, tu n'en sauras rien que tu ne m'aies découvert toi-même ce que tu penses sur la justice. Il y a assez longtemps que tu te moques des autres, interrogeant et réfutant toujours, sans vouloir jamais rendre de compte à personne, ni exposer sur rien ton opinion. Comment, Hippias, n'as-tu pas remarqué que je ne cesse de bien mettre en évidence ce que je crois être le juste? Oui, mais enfin, quelles sont les paroles que tu emploies? Mais à défaut de la parole, c'est par mes actes que je te mets en évidence. Et ne trouves-tu pas que l'action est plus convaincante que la parole? Oh, beaucoup plus, par Jupiter, car bien des gens disent les choses justes et font des injustices, tandis qu'en agissant selon la justice, on ne saurait être injuste. As-tu donc jamais appris que j'ai prêté un faux témoignage, calomnié, semé la dissension entre amis ou concitoyens, que j'ai commis enfin quelque autre injustice? Bon, non, certes. Mais s'abstenir de l'injustice, n'est-ce pas, à ton avis, être juste? Mais tu m'as bien l'air, Socrate, en ce moment même, d'éviter encore de dire ton sentiment sur ce que tu crois le juste. Car ce n'est pas de ce que font les hommes justes, mais de ce qu'ils ne font pas, que je t'entends parler. Moi, reprit Socrate, je croyais que ne pas vouloir être juste est une preuve suffisante de justice. Si tu n'es pas de cet avis, voici ceci te convient mieux. Je dis que ce qui est légal est juste. Veux-tu dire, Socrate, que ce qui est légal et ce qui est juste sont une seule et même chose? Oui. Ah, je ne saisis pas bien ce que tu appelles légal et ce que tu appelles juste. Mais tu connais les lois de l'État. Je les connais. Et quelles sont-elles, à ton avis? Ben, c'est ce que les citoyens ont décrété en établissant ce qu'il faut faire et ce dont il faut s'abstenir. Donc celui-là est dans la légalité, qui se conforme à ses règlements politiques, et celui-là dans l'illégalité qui les transgresse. Très bien. Donc c'est être juste que de leur obéir et injuste de leur désobéir. Parfaitement. Donc celui qui agit justement est juste, et injuste celui qui agit injustement. Et comment le contraire serait-il vrai? En conséquence, celui qui est dans la légalité est juste, et injuste celui qui est dans l'illégalité. Alors, Hippias, mais les lois, Socrate, comment peut-on y faire attacher quelque importance ou croire qu'on doit y obéir, quand souvent ceux-mêmes qui les ont établies ne les trouvent plus bonnes et les abrogent? C'est comme la guerre, dit Socrate. Souvent des villes l'entreprennent et font ensuite la paix. Sans doute. Mais quelle est donc la différence que tu crois faire en blâmant ceux qui obéissent aux lois parce qu'elles peuvent être rapportées, en condamnant les soldats qui se conduisent bien à la guerre parce qu'on peut conclure la paix? Blâmes-tu les citoyens qui, dans les guerres, défendent courageusement leur patrie? Non, par Jupiter, je n'en fais rien. N'as-tu pas remarqué que le lacédémonien Lycurgue n'aurait pas rendu Sparte différente des autres cités s'il ne lui eût inspiré le plus profond respect pour les lois? Parmi les magistrats d'une ville, ne sais-tu pas que ce qui inspire le mieux aux citoyens l'obéissance aux lois sont de tout point les meilleurs? Et qu'un État où les citoyens sont les plus soumis aux lois est aussi le plus heureux pendant la paix et le plus invincible à la guerre. D'ailleurs, la concorde paraît être pour les cités le plus grand des biens. Aussi, très souvent, dans les États, les sénateurs, les hommes les plus éminents, recommandent-ils aux citoyens de rester d'accord. C'est même une loi établie dans toute la Grèce que les citoyens jurent de demeurer d'accord. Et partout, ils font ce serment. Or, je ne crois pas que cela se fasse pour que les citoyens s'accordent à décerner la victoire au même chœur, qu'ils applaudissent les mêmes joueurs de flûte, qu'ils choisissent les mêmes poètes, qu'ils aient les mêmes goûts, mais pour qu'ils obéissent aux lois. Car tant que les citoyens demeurent fidèles, les villes sont très puissantes et très heureuses. Mais sans la concorde, il n'y a ni ville bien gouvernée, ni maison bien administrée. Dans l'État privé, quel moyen plus sûr de ne pas encourir de châtiments publics, quelle voie plus prompte vers les honneurs que l'obéissance aux lois? Comment s'assurer mieux de ne pas être vaincu dans les tribunaux, mais de triompher dans ses procès? À qui confiera-t-on plus volontiers sa fortune, ses fils, ses filles? Qui obtiendra plutôt la confiance d'une ville tout entière qu'un homme qui respecte les lois? De quels autres peuvent attendre plus d'équité un père, des parents, des serviteurs, des amis, des concitoyens et des étrangers? Avec qui les ennemis aimeront-ils mieux régler une suspension d'armes, une trêve, des conditions de paix? À qui, plutôt qu'à l'homme fidèle aux lois, viendront s'unir des alliés? À qui ces mêmes alliés remettront-ils plus volontiers un commandement de troupes, une garde de place forte ou de ville? De qui un bienfaiteur espéra-t-il plus de reconnaissance que de celui qui respecte les lois? Et qui aimera-t-on mieux obligé que celui dont on est sûr d'avoir la gratitude? De qui aimerait-on mieux être l'ami et voudrait-on moins être devenir l'ennemi? Quel est l'homme à qui l'on voudrait le moins faire la guerre, si ce n'est celui dont on désirait le plus être l'ami et le moins être l'ennemi, dont tout le monde recherche l'amitié et l'alliance, et dont personne ne voudrait encourir la haine et l'amitié et l'inimitié? Je te prouve donc, Hippias, que ce qui est légal et ce qui est juste sont une seule et même chose. Si tu as un avis différent, fais-le-moi savoir. Alors Hippias, « Oh, ma foi, Socrate, dit-il, oh, je ne crois pas avoir d'opinion contraire à ce que tu viens de dire sur la justice. » « Et connais-tu, Hippias, reprit Socrate, des lois qui ne sont pas écrites ?»« Oui, celles qui ont les mêmes, sont les mêmes dans tous les pays et qui ont le même objet. » « Et pourrais-tu dire que ce sont des hommes qui les ont établies ?» Ben oui, comment cela serait-il puisqu'ils n'ont pas pu se réunir tous et qu'ils ne parlent pas la même langue? Alors qui donc, à ton avis, a établi ces lois? Moi, je crois que ce sont les dieux qui les ont inspirées aux hommes, car chez tous les hommes, la première loi est de respecter les dieux. Mais le respect des parents n'est-il pas aussi une loi universelle? Sans doute. Et les mêmes lois ne défendent-elles pas la promiscuité des parents avec les enfants et des enfants avec les parents? Ah, pour cette loi, Socrate, je ne la crois pas émaner d'un dieu. Pourquoi donc? Parce que j'en vois certains qui la transgressent. Oh, l'on transgresse bien d'autres. Mais ceux qui violent les lois établies par les dieux subissent un châtiment auquel il est impossible à l'homme de se soustraire. Tandis que ceux qui foulent aux pieds les lois humaines échappent quelquefois à la peine, soit en se cachant, soit en employant la violence. Et quelle est donc la punition que ne peuvent éluder les parents qui vivent en promiscuité avec leurs enfants et les enfants qui vivent avec leurs parents? Mais la plus grande de toutes, par Jupiter, car qu'y a-t-il de plus triste pour les hommes qui procréent des enfants que d'en avoir de malvenus? Mais pourquoi leur postérité est-elle malvenue? Rien n'empêche, s'ils sont bons, qu'ils ne sortent d'eux des enfants également bons. Oh, c'est que, par Jupiter, il ne suffit pas que le couple générateur soit bon. Il faut qu'il soit dans la vigueur de l'âge. Crois-tu donc que la liqueur prolifique soit la même chez ceux qui sont dans la force de l'âge et chez ceux qui n'ont pas atteint ou qui ont dépassé la jeunesse? Non, par Jupiter, elle ne peut être la même. Et quel moment est donc le plus favorable? Évidemment, celui de la vigueur. Et ceux qui n'y sont pas ne se trouvent donc point dans une condition favorable? Non, par Jupiter. Ainsi, à cette époque, il ne faut pas songer à procréer. Non, certes. Ceux donc qui essayent alors de procréer le font contrairement à la nature. Je le pense. Et qu'appellerons-nous donc des enfants malvenus, sinon ceux-là? Je suis encore de ton avis sur ce point. Dis-moi, partout la loi ne veut-elle pas qu'on témoigne de la reconnaissance aux bienfaiteurs? Elle le veut, mais on la transgresse. Eh bien, ceux qui la transgressent, n'emportent-ils pas la peine, abandonnés qu'ils sont de bons amis et forcés de courir après des gens qui les détestent? N'est-il pas vrai, en effet, que ceux qui font du bien à qui les recherche sont de bons amis, et que si on ne leur rend pas les services qu'on en a reçus, Cette ingratitude provoque leur haine et que le grand intérêt qu'on a à les fréquenter fait qu'on ne cesse de les poursuivre. Car Jupiter, Socrate, tout cela m'a bien l'air de venir des dieux. Ces lois qui portent avec elles le châtiment de celui qui les transgresse me semblent l'œuvre d'un législateur supérieur aux hommes. Et crois-tu donc, Hippias, que les dieux établissent des lois justes ou qu'ils puissent en établir de contraires à la justice? Oh non, par Jupiter, car personne ne pourrait établir des lois justes si un lieu ne le faisait pas. Donc, Hippias, les dieux eux-mêmes veulent que ce qui est juste soit la même chose que ce qui est légal. C'est ainsi que par ses discours et par ses actes, Socrate rendait plus juste ce qu'il approchait. Chapitre 5. Funestes effets de l'intempérance, avantages de la vertu contraire. Comment Socrate faisait avancer ses disciples dans la pratique du bien, c'est ce que je vais dire maintenant. Persuadé que la tempérance est un bien nécessaire à l'homme qui veut faire quelque chose de beau, il commençait par montrer en lui-même à ses disciples le modèle le plus parfait. Puis dans ses entretiens, il les dirigeait vers la tempérance de préférence à toute autre vertu. Sans cesse, il se rappelait les procédés qui conduisent à la vertu, et sans cesse, il en faisait souvenir tous ceux qui vivaient près de lui. Oh, je sais qu'il eut un jour avec Euthydème cet entretien sur la tempérance. « Dis-moi, Euthydème, penses-tu que la liberté soit un bien précieux et honorable pour un particulier, pour un État ?»« C'est le plus précieux des biens. » « Celui donc qui se laisse dominer par les plaisirs du corps et qui est mis par là dans l'impuissance de bien faire, le considères-tu comme un homme libre ?»« Allons, pas le moins du monde. » »« Peut-être appelles-tu liberté le pouvoir de bien faire et servitude la présence d'obstacles qui nous en empêchent ?»« Oui, justement. » »« Justement, alors, les intempérants te paraîtront esclaves. » Oui, par Jupiter, et avec raison. Et crois-tu que les intempérants soient seulement empêchés de faire ce qu'il y a de mieux ou qu'ils soient aussi forcés de faire ce qu'il y a de pis? Bon, je les crois tout à la fois poussés au mal et détournés du bien. Et que penses-tu donc de ces maîtres qui empêchent de faire le bien et qui obligent à faire le mal? C'est par Jupiter la pire espèce possible. Et quelle est la pire des servitudes? Oh, selon moi, celle qui nous soumet au pire des maîtres. Ainsi, les intempérants subissent la pire des servitudes. C'est mon avis. La sagesse, qui est le plus grand des biens, les hommes n'en sont-ils pas détournés par l'intempérance, qui les précipite dans une direction opposée? Ne semble-t-il pas qu'elle les empêche de s'appliquer à l'étude des connaissances utiles, en les entraînant vers les plaisirs, et que souvent, alors même qu'ils discernent le bien du mal, l'impression qu'elles causent leur fait choisir le pire au lieu du meilleur. Cela est vrai. Mais pour la prudence, Euthydème, quel est l'homme qui pourrait en avoir moins que l'intempérant? Car rien n'est plus opposé aux actes de la prudence que ceux de l'intempérance. Je suis encore de cet avis. Et penses-tu qu'il n'y ait rien qui détourne plus des devoirs que l'intempérance? Rien, selon moi. Quand un vice nous fait préférer le nuisible à l'utile, rechercher l'un et négliger l'autre, quand il nous force à tenir une conduite opposée à celle des sages, peut-il en être de plus funeste pour l'homme? Aucun, assurément. N'était-il donc pas naturel que la tempérance soit pour les hommes la cause d'effets contraires à ceux de l'intempérance? Oui, sans doute. N'est-il pas également clair que la cause de ces effets contraires doit être excellente? Certainement. Il faut donc croire, Euthydème, que la tempérance est pour l'homme le plus précieux de tous les biens. On en serait douté, Socrate. Mais Euthydème, as-tu déjà songé à ceci? Qu'est-ce donc? que la tempérance, tout en paraissant ne pouvoir nous mener qu'à l'agréable, est cependant incapable de nous y conduire, tandis que la tempérance nous procure les agréments les plus vifs. Comment cela? Ben le voici. L'intempérance ne nous permettra pas d'endurer la faim, la soif, les désirs amoureux, l'insomnie, qui nous font seuls trouver des charmes à manger, à boire, à aimer, à nous reposer, à dormir, besoins qui, par l'attente et la privation, ne font qu'augmenter le plaisir. L'intempérance, dis-je, nous empêche d'éprouver une vraie douceur, à satisfaire ces appétits nécessaires et continuels. La tempérance, au contraire, seule capable de nous faire endurer les privations, est aussi la seule qui nous permet de jouir encore par la mémoire des plaisirs dont nous avons parlé. Tout cela est parfaitement vrai. De plus, apprendre ce que c'est que le beau et le bien, se livrer à quelqu'une de ces études qui enseignent à bien gouverner son corps, à diriger sagement sa maison, à se rendre utile à ses amis et à son pays, et à vaincre ses ennemis, toutes qualités qui non seulement sont utiles, mais qui procurent de très grandes jouissances, tels sont les avantages pratiques que recueillent les hommes tempérants et dont les intempérants sont exclus. Qui mérite moins, en effet, de les obtenir que celui qui n'a pas la liberté d'agir ainsi à cause de la préoccupation et de l'empressement qui l'entraînent à des jouissances faciles? Alors, est idem. Il me semble, Socrate, que, selon toi, l'homme maîtrisé par les plaisirs des sens est tout à fait incapable d'aucune vertu. Quelle différence y a-t-il en effet, Euthydème, entre l'homme intempérant et la bête la plus stupide? Celui qui ne prend jamais le bien pour le but, qui poursuit le plaisir par tous les moyens possibles, en quoi différerait-il des animaux les plus dépourvus de raison? Au contraire, les hommes tempérants ont seuls la liberté de rechercher ce qu'il y a de mieux dans tous les objets, de les distribuer par genre, en pratique et en théorie, de choisir le bien et de s'abstenir du mal. Socrate disait que c'était le moyen de rendre les hommes meilleurs, plus heureux et plus habiles dans la dialectique. Il ajoutait que le nom de dialecticien venait de l'habitude de dialoguer en commun et de distribuer les objets par genre, qu'il fallait donc se préparer avec le plus grand soin à cet exercice et y consacrer tous ses efforts, puisque cette étude forme les hommes les meilleurs, les plus habiles politiques et les plus forts dialecticiens. Chapitre 6. Avantages de la dialectique. Définition de la justice, de la sagesse, du bien, du beau, du courage, de la royauté et de la tyrannie. Comment Socrate formait ses disciples à la dialectique? C'est ce que je vais encore essayer de rapporter. Socrate pensait que, quand on comprend bien ce qu'est chaque chose en particulier, on peut l'expliquer aux autres, mais que si on l'ignore, on n'est pas étonnant qu'on se trompe soi-même et qu'on trompe les autres avec soi. Aussi ne cessait-il jamais de rechercher avec ses disciples ce qu'est chaque chose en particulier. Ce serait un grand labeur de reproduire toutes ces définitions. Cependant, celles qui peuvent, à mon avis, indiquer la manière de procéder, je vais les dire. Et d'abord, voici comment il est envisagé la piété. Dis-moi, Euthydème, quelle idée te fais-tu de la piété? Oh, c'est la plus belle des choses, par Jupiter. Pourrais-tu donc nous dire quel est l'homme pieux? C'est, je pense, celui qui honore les dieux. Est-il permis à chacun d'honorer les dieux selon sa fantaisie? Oh non, il y a des lois qui règlent le culte. Ainsi, celui qui connaît ces lois sait comment il faut honorer les dieux. Je le crois. Et celui qui sait honorer les dieux, pense-t-il qu'il faille les honorer autrement qu'il ne fait? Non, certes. Honore-t-on les dieux autrement qu'on ne croit le devoir? Oh, je ne le pense pas. Donc celui qui connaît les lois relatives au culte rend aux dieux un culte légitime. Oui, Et celui qui rend au Dieu un culte légitime les honore comme il faut. Assurément. Et celui qui les honore comme il faut est un homme pieux. Sans doute. Nous aurions donc raison de définir l'homme pieux, celui qui connaît le culte légitime. C'est bien mon avis. Passons aux hommes. Est-il permis à chacun de les traiter à sa fantaisie? Non, mais celui qui connaît les lois faites pour régler les apports des hommes entre eux se conduit légitimement à leur égard. Donc ceux qui se traitent selon ces lois se traitent les uns les autres comme ils le doivent. Oui. Donc ceux qui se traitent comme ils le doivent se traitent bien. Assurément. Donc ceux qui traitent bien les hommes remplissent bien les devoirs de l'homme. Oui. Donc ceux qui obéissent aux lois conduisent selon la justice. Certainement. Et la justice, sais-tu ce qu'on appelle ainsi? Ce que les lois ordonnent. Ainsi, ceux qui font ce que les lois ordonnent se conduisent selon la justice et le devoir. Mais peut-il en être autrement? Donc ceux qui se conduisent selon la justice sont justes. Je le pense. Et crois-tu qu'on puisse obéir aux lois sans savoir ce qu'elles ordonnent? Non. Et quand on sait ce qu'il faut faire, pense-t-on ne pas devoir le faire? Oh, je ne crois pas. Connais-tu des hommes qui fassent autre chose que ce qu'ils croient devoir faire? Non. Donc ceux qui connaissent les lois prescrites relativement aux hommes sont des hommes justes? Évidemment. Donc ceux qui se conduisent selon la justice sont des hommes justes? Ben, qui le serait alors? Nous faisons donc une bonne définition en définissant l'homme juste, celui qui connaît les lois prescrites relativement aux hommes. C'est mon avis. Et la sagesse, comment la définirions-nous? Dis-moi, les sages, te paraissent-ils être sages seulement dans ce qu'ils savent, ou bien y a-t-il des gens qui soient sages dans ce qu'ils ne savent pas? Ben, on est sage dans ce qu'on sait, c'est évident. Comment en effet pourrait-on l'être dans ce qu'on ne sait pas? Et est-ce par la science que les sages sont sages? Le moyen d'être sage autrement que par la science. Crois-tu que les sages puissent être sages par autre chose que par la sagesse? Je ne le crois pas. La science est-elle donc la sagesse? Me le semble. Penses-tu qu'il soit possible à l'homme de tout savoir? Oh, par Jupiter, je crois bien plutôt qu'il ne peut savoir que bien peu de choses. Un homme ne peut donc être sage en tout. Oh non, certes, par Jupiter. Et chacun dans ce qu'il sait est réellement sage. Oui, c'est mon avis. Faut-il, antidème, rechercher de même la nature du bien? Comment faire? Crois-tu que la même chose soit utile à tous? Non, vraiment. Eh bien, ce qui est utile à l'un ne te semble-t-il pas parfois nuisible à l'autre? Sans doute. Mais le bien est-il, selon toi, différent de l'utile? Oh, nullement. Une chose utile est donc un bien pour celui à qui elle est utile? Je le crois. Et pour le beau, avons-nous autre chose à dire, sinon que, quand tu parles de la beauté d'un corps, d'un vase ou de quelque autre objet, tu entends que cet objet est beau pour toute espèce d'usage? Mais pas autre chose, assurément. Chaque objet est donc beau seulement pour l'usage auquel il doit servir. C'est tout à fait cela. Mais un objet beau peut-il l'être encore sous un autre rapport que celui de l'usage qu'on en peut faire? Nullement. Une chose utile est donc belle pour celui auquel elle est utile. Oui, c'est mon avis. Le courage, Tidem, le places-tu parmi les belles choses? Oh, c'est la plus belle de toutes, à mon sens. Tu penses donc que le courage n'est pas utile pour les très petites choses? Oh non, par Jupiter, mais je le crois utile pour les très grandes. Crois-tu que lorsqu'on est en présence de dangers terribles, ce soit un avantage de ne pas les connaître? Pas le moins du monde. Ainsi, ceux qui n'ont pas peur en pareille occurrence, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il en est, ne sont pas des hommes courageux? Ben non, par Jupiter, car à ce compte, il faudrait ranger parmi les hommes de cœur bon nombre de fous et de lâches. Et que diras-tu donc alors de ceux qui ont peur même de ce qui n'a rien de terrible? Ben qu'ils sont encore au-dessous, ma foi. Appelles-tu donc courageux ceux qui n'ont pas peur dans les dangers imminents et lâches ceux qui ont peur? C'est cela même. Appelles-tu courageux d'autres gens que ceux qui savent bien se montrer dans les dangers? Non, pas d'autres. Et lâches ceux qui s'y montrent mal? Ben, à quels autres donner ce nom? Chacun d'eux cependant s'y conduit comme il croit devoir le faire. Le moyen qu'il en soit autrement. Est-ce que ceux qui ne peuvent pas si bien conduire savent comment il faut s'y comporter? Nullement. Et ceux qui savent comment il faut s'y comporter, le peuvent-ils? Oui, eux seuls. Bon, maintenant, ceux qui savent bien s'y prendre, se montrent-ils mal dans les dangers? Je ne le pense pas. Ceux qui s'y montrent mal ne savent donc pas s'y prendre. C'est vraisemblable. Donc, ceux qui savent bien se montrer dans les dangers imminents sont courageux, et ceux qui ne le savent pas sont des lâches. C'est mon opinion. La royauté et la tyrannie étaient selon lui deux autorités, mais il croyait qu'il y a entre elles une différence. Il appelait l'une au pouvoir accepté par les hommes et conforme aux lois de l'État, c'est à savoir la royauté, et l'autre un pouvoir imposé et ne connaissant d'autres lois que les caprices du chef, c'est à savoir la tyrannie. Une république gouvernée par des citoyens amis des lois, il l'appelait aristocratie, celle où dominent les riches en vertu du sens, plutocratie, et démocratie, celle où le peuple entier est souverain. Si l'on venait le contredire sans apporter des preuves bien claires, si l'on avançait sans le démontrer, que tel citoyen était plus sage, plus habile politique, plus courageux ou possédait toute autre qualité que celui dont il parlait, il ramenait la conversation au sujet véritable, à peu près de la manière suivante. Tu dis que l'homme dont tu fais l'éloge est meilleur citoyen que celui que je loue? Oui. Et pourquoi donc ne commencerions-nous pas par examiner quel est le propre d'un bon citoyen? Faisons-le. Dans l'administration des richesses, la supériorité n'est-elle pas celui qui enrichit sa patrie? Sans doute. Et en temps de guerre, à celui qui la met au-dessus de ses adversaires? Cela est certain. Dans une ambassade, n'est-ce pas à celui qui change ses ennemis en amis? Cela peut être. Et dans l'assemblée du peuple, à celui qui apaise les séditions et fait naître la concorde? Bon, je le crois aussi. C'est ainsi qu'en ramenant la question, il rendait la vérité sensible même à ses contradicteurs. Quand il discourait sur un sujet, il procédait par les principes les plus généralement reconnus, convaincu que c'est une méthode infaillible de raisonnement. Aussi, de tous ceux que j'ai connus, il n'en est point qui, lorsqu'il parlait, fît mieux partager son opinion aux auditeurs. Il disait encore qu'Homère appelle Ulysse un orateur sûr de sa cause, parce qu'il savait déduire ses raisons des idées admises chez tous les hommes. Chapitre 7. Mépris de Socrate pour toute science inutile dans la pratique. Ce qu'il faut savoir en géométrie, en astronomie, en arithmétique et en médecine. Utilité de la divination. La simplicité avec laquelle Socrate exposait ses opinions à ses disciples me paraît clairement exprimée par ce que j'ai dit plus haut. Mais comment, en outre, Il s'appliqua de les rendre capables de se suffire à eux-mêmes dans leurs fonctions respectives. C'est ce que je vais dire à présent. De tous les hommes que j'ai connus, il n'en est point qui eût à cœur autant que lui de connaître les talents de ceux qui le fréquentaient. Tout ce qu'il savait convenir à un homme parfait et qu'il connaissait lui-même, il s'empressait de le leur enseigner, et pour leur faire apprendre ce qu'il savait moins bien lui-même, il les menait auprès des maîtres instruits. Il leur montrait aussi jusqu'à quel point un homme bien élevé doit se rendre habile dans chaque science. Ainsi, il disait qu'il fallait apprendre la géométrie jusqu'à ce qu'on fût capable de mesurer exactement au besoin une terre que l'on veut acheter, vendre, diviser ou labourer. Et selon lui, c'est une chose si facile à apprendre que pour peu qu'on s'applique à l'arpentage, on connaît bien vite et la grandeur de la terre et la manière de la mesurer. Mais qu'on poussât l'étude de la géométrie jusqu'aux problèmes les plus difficiles, c'est ce qu'il désapprouvait. Il disait qu'il n'en voyait point l'utilité. Ce n'est pas qu'il les ignorât lui-même, mais il prétendait que la technique de ces problèmes est faite pour consumer la vie de l'homme et le détourner d'une foule d'autres études utiles. Il recommandait d'apprendre assez d'astrologie pour reconnaître les divisions de la nuit, du mois et de l'année en cas de voyage, de navigation ou de garde, et afin d'avoir des points de repère pour tout ce qui se fait la nuit, dans le mois ou dans l'année, grâce à la connaissance du temps affecté à ces divisions. Il ajoutait qu'il était facile d'apprendre ces points auprès des chasseurs de nuit, des pilotes, de tous les gens, enfin, qui ont intérêt à le savoir. Quant à l'astronomie et aux recherches qui concernent les globes placés en dehors de la rotation de notre ciel, à savoir les astres errants et sans règle, leur distance de la Terre, leur révolution et les causes de leur formation, il en dissuadait fortement, disant qu'il n'y voyait aucune utilité. Cependant, il n'était point étranger à ses connaissances, mais il répétait qu'elles étaient faites pour consumer la vie de l'homme et le détourner d'une foule d'études utiles. En général, il empêchait de se préoccuper outre mesure des corps célestes et des lois suivant lesquelles la divinité les dirige. Il pensait que ces secrets sont impénétrables aux hommes et qu'on déplairait aux dieux en voulant sonder les mystères qu'ils n'ont pas voulu nous révéler. Il disait qu'on courait le risque de perdre la raison en s'enfonçant dans ses spéculations, comme l'avait perdu Anaxagore avec ses grands raisonnements pour expliquer les mécanismes des dieux. Lorsque celui-ci, en effet, prétendait que le soleil est la même chose que le feu, il ignorait que les hommes regardent facilement le feu, tandis qu'ils ne peuvent regarder le soleil en face, et de plus que les rayons du soleil noircissent la peau, et fait que le feu ne produit pas. Il ignorait aussi que la chaleur du soleil est nécessaire à la vie et à l'accroissement des productions de la terre, tandis que celle du feu les fait périr. Et quand il disait que le soleil est une pierre enflammée, il ignorait encore que la pierre exposée au feu ne donne pas de flamme et ne résiste pas longtemps, tandis que le soleil ne cesse pas d'être de tout temps le plus brillant de tous les corps. Socrate conseillait d'étudier la science des nombres, mais il recommandait, comme pour les autres sciences, de ne pas s'engager dans de vaines recherches, et il examinait et discutait avec ses disciples jusqu'à quel point toutes les connaissances peuvent être utiles. Il les engageait vivement à ne pas négliger leur santé, à consulter des gens instruits sur le régime qu'ils devaient suivre, à étudier eux-mêmes pendant tout le cours de leur vie quels aliments, quelles boissons, quels exercices leur convenaient le mieux et comment ils devaient en user pour conserver la santé la plus parfaite. Il disait en effet qu'il était difficile à un homme accoutumé à s'étudier ainsi de trouver un médecin qui sût discerner mieux que lui ce qui convenait à sa santé. Si pourtant quelqu'un voulait s'élever au-dessus des connaissances humaines, il lui conseillait de s'adonner à la divination, lui assurant que, quand on sait par quels signes les dieux font connaître leur volonté à l'homme, on n'est jamais privé des avertissements des dieux. Chapitre 8. La condamnation de Socrate ne prouve rien contre la voix intérieure dont il disait recevoir les conseils. Résumé et conclusion des mémoires. Si l'on croit que l'assertion de Socrate relative aux démons qu'il avertissait de ce qu'il avait à faire ou non tombe devant la condamnation capitale prononcée par ses juges et le convainc de mensonge au sujet de ce génie familier, qu'on réfléchisse bien d'abord à ceci. Socrate était d'un âge assez avancé pour n'avoir plus que fort peu de temps à vivre. Ensuite, il n'a perdu que la partie la plus pénible de la vie, celle où l'intelligence s'affaiblit chez tous les hommes. En y renonçant, il a fait voir toute la vigueur de son âme. Il s'est couvert de gloire par la vérité, la liberté et la justice de sa défense, autant que par la douceur et le courage avec lesquels il reçut son arrêt de mort. On convient qu'aucun homme dont on ait conservé la mémoire ne supporta la mort avec plus de cœur. Il fut obligé de vivre encore 30 jours après son jugement, parce que les fêtes de Délos avaient lieu dans ce même mois et que la loi défend de mettre à mort aucun condamné avant le retour de la théorie d'Hélienne. Durant tout ce temps, il vécut sous les yeux de ses amis, comme il avait vécu jusqu'alors. Et jusqu'alors, il s'était attiré une admiration peu commune par le calme et la sérénité de sa vie. Quelle plus belle mort que la sienne! Ou plutôt, est-il une mort plus belle que celle de l'homme qui sait le mieux mourir? Est-il une mort plus heureuse que la plus belle? Est-il une mort plus agréable aux dieux que la plus heureuse? Je vais rapporter encore ce que j'ai entendu dire par Hermogène, fils d'Hipponique. Mélétus avait déjà porté son accusation. Hermogène, qui entendait Socrate discourir sur tout autre chose que son procès, lui dit qu'il devrait bien songer à son apologie. Socrate lui répondit: « Mais ne te semble-t-il pas que je m'en suis occupé toute ma vie ?» Hermogène lui ayant demandé de quelle manière, Socrate lui dit qu'en vivant toujours l'œil sur ce qui est juste et sur ce qui est injuste, en pratiquant la justice et en évitant l'iniquité, il croyait s'être préparé la plus belle apologie. Hermogène reprit: « Mais ne vois-tu pas, Socrate, que les juges d'Athènes, choqués par la défense, ont déjà fait périr bien des innocents, comme ils ont absous bien des coupables ?»« Eh bien, Hermogène, dit Socrate, j'ai essayé de préparer une apologie que je présenterai à mes juges. Mais mon démon s'y est opposé. » Alors Hermogène: « Mais ce que tu dis m'étonne. Pourquoi t'étonner si le Dieu juge qu'il est plus avantageux pour moi de quitter la vie de ce moment même? Ne sais-tu pas que jusqu'à présent, il n'y a pas d'homme à qui je le cède pour avoir vécu mieux et plus agréablement? Car je crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à se rendre meilleur, ni plus agréablement qu'en sentant qu'on devient réellement meilleur. Cet effet, je l'ai jusqu'ici éprouvé en moi-même, en vivant parmi les hommes et en me comparant aux autres. Et je n'ai jamais cessé de me former sur moi-même cette opinion. Et ce n'est pas moi seulement, ce sont aussi mes amis qui m'ont jugé de la sorte. Non parce qu'ils m'aiment, mais car chacun de ceux qui m'aiment se conduirait ainsi avec ses amis, mais parce qu'ils ont cru qu'en me fréquentant, ils devenaient meilleurs. Si je vivais plus longtemps, il me faudrait sans doute payer mon tribut à la vieillesse. Je verrais, j'entendrais moins. Mon intelligence baisserait. J'aurais plus de peine à apprendre et plus de facilité à oublier. Et partout où je valais mieux, je deviendrais pire. Si je n'avais pas le sentiment de toutes ces pertes, ma vie ne serait plus viable. Et si je les sentais, comment ma vie ne serait-elle pas plus triste et plus malheureuse? Si je meurs injustement, ce sera une honte pour ceux qui m'ont tué injustement. Car si la justice est une honte, comment un acte injuste en serait-il pas une? Mais sera-ce une honte pour moi, que d'autres n'aient pu à mon égard ni reconnaître la justice, ni la mettre en pratique? Je vois bien que la réputation des hommes qui m'ont précédé passe à la postérité, toute différente selon qu'ils ont été auteurs ou victimes de la justice. Je sais encore que les sentiments que j'inspirerai aux hommes en mourant aujourd'hui ne seront pas les mêmes que pour ceux qui me tuent. Ils me rendraient, je le sais, ce témoignage que jamais je n'ai fait de tort à personne, et que loin de corrompre ceux qui me fréquentaient, je me suis toujours efforcé de les rendre meilleurs. Voilà quels étaient les entretiens de Socrate avec Hermogène et quelques autres. Parmi ceux qui l'ont bien connu tel qu'il était, tous ceux qui aiment la vertu ne cessent pas de le regretter comme le plus utile auxiliaire à la pratique du bien. Pour moi, qui l'ai vu tel que je l'ai dépeint, si pieux, qui ne faisait rien sans l'assentiment des dieux, si juste, qui ne causa jamais le moindre tort à personne, et qu'il rendit les plus grands services à ceux qui le fréquentaient, si tempérant, qui ne préféra jamais l'agréable à l'honnête, si prudent, qui ne se trompait jamais dans l'appréciation du bien et du mal, mais suffisant à l'intelligence de toutes ces notions, capable de les expliquer et de les définir, habile à juger les gens, à leur montrer leurs fautes, à les tourner vers la vertu et vers le bien, il me paraissait fait pour être le meilleur et le plus heureux des hommes. Si quelqu'un n'est point de cet avis, qu'il compare cette manière d'être à celle des autres, et qu'il juge.